Alors, moi, il me semble que dans un des enjeux historiquement de l'analyse de la socialisation primaire, ça a été d'analyser les mécanismes de la reproduction, donc depuis l'ouvrage de Pierre Bourdieu, en posant la question de l'adéquation des dispositions acquises dans le cadre familial aux dispositions qui sont attendues par l'institution scolaire. Il me semble qu'on a vu au cours de ces journées combien la transmission de dispositions économiques participait des mécanismes de la reproduction et des stratégies familiales de reproduction. Et du coup, il me semble qu'un des enjeux, c'est de la même façon qu'on a pensé l'articulation entre socialisation familiale et institution scolaire, eh bien, il faudrait penser plus systématiquement l'articulation entre socialisation familiale et instances qui sanctionnent et qui légitiment le capital économique. Voilà les confrontations entre dispositions et dispositifs dont vous parliez, ou la question de la sélection des dispositions. Dans le travail qu'on fait avec Céline Bessière, là, dans notre enquête auprès des notaires, et puis avec le collectif Rupture sur les séparations, on voit comment chez les notaires, chez les avocats, devant les juges, dans les héritages et les divorces, les prétentions économiques des hommes et des femmes, des différents milieux sociaux, sont plus ou moins reconnues, plus ou moins légitimées et aboutissent à des situations économiques très inégales. Je pense qu'il faut aussi plus systématiquement resituer l'importance de ces travaux sur les socialisations économiques dans le contexte actuel qui a été mis en évidence dans les travaux de Thomas Piketty, d'augmentation des inégalités de revenus, d'augmentation des inégalités de patrimoine entre ménages, aussi dans les travaux des économistes Nicolas Frémont et Marion Le Turc, d'augmentation des inégalités de patrimoine entre hommes et femmes, et du coup de l'enjeu que ça représente de travailler sur les socialisations économiques quand on prend la mesure de leur importance aujourd'hui dans la reproduction des rapports sociaux de classe et de sexe. Et alors, je reviens sur la suggestion qui a été faite de travailler sur la socialisation économique assurée par l'institution scolaire. Il y a bien sûr la socialisation économique que tentent d'amener des institutions économiques dominantes quand on transforme le programme des SES. Mais il me semble aussi que l'institution scolaire valorise un certain nombre de dispositions qui ne sont pas de très bonnes dispositions quand on veut accumuler du capital économique et soumet à la réflexion le fait que au moment même où, dans la population générale, les femmes sont devenues plus diplômées que les hommes, eh bien, on assiste à une augmentation des inégalités de richesse entre hommes et femmes. Si ça marche toujours. Donc voilà, je pense aussi qu'il faut se poser la question de la place de l'institution scolaire, à la fois comme, pour certains, apportant des dispositions économiques favorables à l'accumulation, et pour d'autres, au contraire, qui seraient défavorables.
C'était justement sur ce point que je voulais commencer, en fait, en disant que... Alors, justement, je voyais les choses un peu différemment. C'est-à-dire, je pense qu'on peut dire aussi que le système scolaire favorise la production de dispositions économiques à la concurrence, à la mesure du rendement du travail, avec les notes. Enfin, voilà, on pourrait vraiment creuser l'analogie. Et le problème, c'est qu'à un moment, les notes ne se traduisent pas par des meilleures rémunérations. Enfin, pas automatiquement, c'est plus compliqué que ça. Voilà, les filles ont de meilleures notes, mais voilà, elles ont des salaires plus bas. Et ça, je pense que c'est une vraie question. Alors, c'est pas tout à fait vrai, au sens où, si on travaille sur l'enseignement supérieur, on voit justement se différencier les sphères. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'appelais la culture scolaire économique. Voilà, c'était dans ma thèse. Hein. Dès ma thèse, j'avais toute une partie... D'ailleurs, j'aurais dû publier, mais qui a été publié par bout, enfin bref, je passe les détails, et qui était sur la montée de la culture scolaire économique, justement. Donc, des dispositions économiques liées au système scolaire. Et j'avais centré ça sur la montée de l'économie et du management comme discipline, comme culture, comme référence, y compris dans d'autres disciplines, y compris l'histoire géo, etc., qui est plus imprégnée de perspectives économiques. C'est-à-dire, c'est un phénomène que j'avais même qualifié de révolution culturelle. J'ai vraiment pas peur des mots. Hein. Mais je pense que c'est assez pertinent. Enfin, on a vécu une forme de révolution culturelle qui explique l'évidence du néolibéralisme dans nos sociétés, enfin, un ordre qui semble fluide d'une certaine manière et où les résistances sont finalement devenues si peu nombreuses. Donc c'est le triomphe aussi d'un éthos systémique, voilà, pour revenir aux catégories que j'avais essayé de revisiter. Faut pas oublier, voilà, il y a les ethos de classe, c'est très très important. Je pense qu'on fait notre métier de sociologue quand on travaille sur les différences, et on a vu vraiment de très très beaux exemples dans les interventions là et aujourd'hui. Mais il faut aussi travailler sur les ethos systémiques. Peut-être travailler, alors ça c'était un peu mon dernier point, parce que c'est sans doute le plus ambitieux et le plus fou quelque part, mais revenir à l'ambition systémique. Alors je pense assez convergent quand même, pour le coup, je pense pas que ce soit trop déviant, enfin divergent. Revenir à l'ambition un peu de Weber, l'ambition un peu systématique de décrire les ethos des grandes religions, des grandes civilisations, des grandes périodes historiques, des sociétés aussi, enfin en spécifiant. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où malgré tout, il n'y a pas qu'un seul ethos systémique, il y a quand même la Chine qui est assez particulière. Du point de vue de l'éthos économique, du point de vue des dispositions économiques qui sont fabriquées, cultivées, entretenues, enfin, ne serait-ce que par la prégnance d'un discours idéologique marxiste, par exemple, qui est quelque chose d'assez étonnant, enfin, à première vue pour nous, c'est-à-dire la combinaison d'un discours idéologique se référant directement à Marx et de pratiques que nous, on aurait tendance à qualifier de capitalistes. Voilà, et ça, il suffit d'aller en Chine, je pense, pour se rendre compte de ce contraste incroyable qui est lié, sans doute, à des dispositions, et qui n'est pas seulement... parce qu'on a tendance, c'est vrai, à le voir très vite, c'est le discours idéologique qui cache... C'est un peu rapide, je pense, de voir les choses comme ça. Voilà, je pense que les dispositions, aujourd'hui, ne sont pas si unifiées que ça à l'échelle mondiale, et au fond, voilà, alors c'est très ambitieux, ça ne peut pas être le travail d'un seul auteur. Dans les auteurs qui ont fait des choses un peu comme ça, relativement récemment, on peut penser à Testard dans sa perspective un peu folle de classification des sociétés. Il n'a pas tellement une perspective dispositionnelle, justement, mais si on ajoute à Testard une perspective un peu dispositionnelle, je pense qu'on peut arriver à des choses vraiment très très intéressantes, y compris sur la place de la monnaie, de l'argent. C'est des travaux de Testard qui ne sont pas très très connus, mais je suis en train de lire sur les origines de la monnaie, qui sont assez passionnants, qui résonnent avec la sociologie de la monnaie, enfin, avec des choses... un peu plus connu, comme l'article de Signan sur la monétarité sociale, enfin voilà, un ensemble de travaux que l'on devrait revisiter. Et je pense en particulier, il y a un ethos systémique qui a été évoqué, je pense, dans ces journées, qui est lié à une phase particulière dans laquelle nous sommes du capitalisme, c'est un ethos très financiarisé, c'est-à-dire où vraiment la dimension financière a pris le dessus sur beaucoup d'autres dimensions, et cela dans beaucoup de catégories sociales, et pas seulement dans les catégories supérieures. Je pense que ça, c'est vraiment très important de décrire la montée en puissance de cet ethos systémique dans sa différenciation sociale, bien sûr, mais voilà, et sa pénétration dans le temps, et puis peut-être aussi ses limites, c'est-à-dire la crise financière de 2008, c'est déjà peut-être un premier coup d'arrêt. On ne sait pas trop ce qui peut en résulter. Ça a été un coup d'arrêt pour l'immobilier aux États-Unis, clairement. C'est-à-dire que là, je pense que voilà, un système dans lequel les dispositions liées à l'accumulation immobilière étaient extrêmement valorisées a rencontré ses limites. Enfin, on a vu des limites énormes. La crise subprime, c'est une crise de l'immobilier. Donc, on n'a pas connu la même chose en Europe. Je pense qu'on est dans une situation où on est encore dans un système économique dominé par l'accumulation financière et immobilière, y compris dans les catégories populaires, peut-être plus dans les catégories populaires à certains égards, ça a été dit, que dans d'autres catégories, en termes relatifs, parce qu'en termes absolus, c'est évidemment dans les classes supérieures qu'on accumule des maisons, des appartements, des logements, et au point que voilà, les inégalités aujourd'hui en résultent en grande partie. C'est-à-dire, je pense que on est dans un cadre systémique qui favorise voilà, des dispositions qui produisent de l'inégalité, quoi. Et qui pour l'instant ne sont pas contrecarrées par d'autres dispositions qui viendraient de la sphère publique, des politiques publiques, etc. Contrairement à d'autres périodes, je pense que voilà, la période keynésienne, c'est une période justement où il y a tout un ensemble de mécanismes inhibiteurs de l'accumulation financière, d'un certain nombre de pratiques, qui expliquent une moindre progression des inégalités. Et donc les tendances qui ont été évoquées qu'a mis en évidence, entre autres, Thomas Piketty et son équipe. Voilà, j'avais peut-être d'autres éléments. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des neurosciences. Je voulais juste dire une chose, c'est quand même... on a évoqué l'enfance. Enfin, voilà, il y a des travaux très, très intéressants, manifestement, au sujet de l'enfance. Bon, il y a aussi la psychologie, quand même, la psychologie sociale, qui a peut-être des choses à nous dire, malgré tout, dans une forme d'indifférenciation, peut-être, justement des dispositions proprement sociales liées à l'appartenance de classe, etc. Mais qui apportent aussi des résultats produits dans d'autres contextes, voilà, qui sont peut-être en eux-mêmes problématiques. Je veux dire, le cadre expérimental est très artificiel. C'est évidemment pas la vraie vie. Mais en même temps, voilà, ce qui apporte un flot régulier de résultats. Bon, je parle pas de la neuroéconomie spécialement, mais voilà, la psychologie plus largement expérimentale, y compris sur ces questions, questions sont assez présentes, peut me semble-t-il, nous apporter des choses, comme plus largement d'ailleurs, des échanges entre la discipline, qui est à mon sens très solide, suffisamment solide, la discipline de la nôtre, hein, la sociologie, pour se confronter aux travaux historiques, aux travaux anthropologiques. On n'a pas parlé d'anthropologie économique, mais quand même, on est vraiment très proche, pour ne pas dire la même discipline, et bien sûr aux travaux des disciplines montantes que sont la psychologie cognitive, les neurosciences, etc. Aussi confronté, voilà, j'ai pas dit qu'il fallait faire des IRM tout de suite, quoi. Déjà, il faut avoir l'argent. Donc,
Fanny, je me sens un peu dépourvue pour répondre à la question et je partage l'idée. Enfin, ma réponse initiale, c'était l'intérêt, en fait, d'étudier la question de la socialisation économique pour penser la reproduction. Donc, j'étais un peu sur la même base que ce que tu as évoqué. Et je pense que ouais, tous les travaux en termes de qui s'intéressent plus à la socialisation familiale ou ce qu'on a pu faire sur les enfants et tout ça, bah vraiment ouvrir le questionnement en fait à ces questions-là, à l'observation de la transmission de ce rapport à l'argent des tout petits au sein de la famille, mais aussi du coup au sein d'institutions scolaires et dans les lycées professionnels et les CFA, c'est très ancien, mais en fait je pense pas que ça avait été formulé de cette manière. Après dans les filières générales c'est plus nouveau, les incursions et les injonctions à penser l'économie et à diffuser cette idéologie, l'idéologie libérale plutôt. Mais voilà, je pense qu'en fait même dans l'enseignement professionnel c'est beaucoup plus ancien et en fait on avait pas tellement pensé de cette manière. Je pense que ce serait assez possible.
Mais la question, c'était aussi l'inverse. Mmh. C'était qu'est-ce qui se fait dans la socialisation, dans les études sur les approches en termes de socialisation qui pourraient être davantage développées, notamment quand on veut penser les dispositions économiques. Ça pourrait être aussi...
Merci, en tout cas, avocat, de vous être prêté à l'exercice qui n'était pas si facile que ça. On en a bien conscience. Et maintenant, la parole est à la salle et on espère que vous aurez des nombreuses réactions.
Merci. Alors, merci pour toutes ces interventions. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé, ça m'aide pour ma thèse. Je ne vais pas forcément détailler tous les points qui m'ont aidé parce que ce serait très long. Mais en tout cas, je remarque, j'étais pas là hier, mais je remarque un petit peu dans le programme de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que la notion de travail n'est pas forcément, en tout cas, abordée. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'interventions sur... en tout cas, en filigrane, le travail est quand même en filigrane, mais il n'y avait pas forcément de présentation sur un environnement professionnel particulier, sur des travailleurs. Et je pense que ce qui est pas... c'est pas grave du tout, mais je trouve qu'il y a qu'il y a quelque chose dans la socialisation où on peut faire des ponts, je pense, entre la socialisation économique sur les marchés, à l'école, etc., dans la famille, mais aussi au travail. Comment est-ce qu'on en est socialisé à des questions comme pourquoi est-ce qu'on fait des questions traditionnelles en fait en sociologie du travail, pourquoi est-ce qu'on va faire tel ou tel travail qui est plutôt précaire, etc., qui aussi dépend de contexte économique, de la conjoncture ou de situation familiale. Je pense notamment à l'indépendance, où il peut y avoir des dispositions familiales à l'indépendance pour aller dans la petite indépendance qui peut apporter aussi de la précarité au travail plutôt que d'aller dans un salariat précaire, etc. Donc voilà, c'était des questions, ce genre de questions que je voulais poser.
C'était peut-être davantage présent justement hier sur... mais c'est pas grave, mais du coup peut-être que vous avez quand même...
Oui, effectivement, ça a été évoqué hier. Il me semble que, par exemple, il y a deux choses. Il y a par exemple la notion d'intéressement. Comment on intéresse. Enfin, mais ça a été aussi évoqué aujourd'hui. Je pense que un des trucs, c'est. J'essaie de répondre intelligemment et synthétiquement à la question. C'est d'abord s'interroger justement sur c'est quoi le monde du travail. Et en fait, le travail, c'est quelque chose, il y a le travail professionnel, il y a aussi le travail domestique. Et justement, un des enjeux, il me semble important, de la socialisation économique, c'est comment dans la sphère domestique, on valorise ou on ne valorise pas le travail qui est effectué, selon qui aussi il est effectué. Ça, c'est une des dimensions. Il me semble dans plusieurs communications, ça a été aussi dit par Fanny Renard, on apprend aux gens à dire bah, ça, c'est quelque chose pour lequel tu peux demander à être payé, ça non. Et voilà, et dans les familles d'indépendants, c'est très très clair, avec Céline Bessière et d'autres travaux, Quentin Schnapper en parlait hier, le voit très clairement. Il y a des enfants auxquels on dit ben, ton travail, du coup, on va te payer. Ou c'est toi qui auras l'entreprise, etc. Et d'autres ont dit, bah oui, tu tiens la caisse le samedi, c'est normal, c'est la famille, quoi. Voilà.
Question, mais sauf si quelqu'un, c'est assez libre, hein, je pense. Donc, tu as une question, du coup.
Je voulais poser une question de méthode, notamment à Sybille Golac. C'est vraiment, je me saisis de vos compétences pour, de manière tout à fait utilitaire. C'était par rapport à ce que tu as dit sur, c'est pas si difficile que ça de faire parler les gens de leurs revenus, de leur patrimoine. Alors, c'est très intéressant parce que c'est contre-intuitif. Dans l'enquête que j'ai présentée sur les enfants, on voulait essayer d'approcher les conditions matérielles d'existence de manière précise, et donc on posait la question des salaires, des patrimoines, voilà. Et on s'est un peu censuré en se disant on va jamais arriver à le savoir, c'est très délicat, ça va rompre la situation d'enquête tout de suite, etc. Enfin, on a beaucoup, on s'est beaucoup cogité là-dessus. Finalement, on a quand même posé des questions, même en pensant qu'elles pouvaient fâcher. Ça s'est pas si mal passé que ça, mais il y a quand même quelques petits cas où ça a coincé. Et du coup, voilà, je voulais te demander si toi, ça n'a jamais coincé ou rarement coincé, comment tu l'expliques ? Est-ce que c'était lié au fait que c'était des familles d'indépendants, par exemple, et que du coup, il y a une aisance à parler de ça ? Ou que c'était pas que dans des familles d'indépendants ? Enfin, comment tu l'expliques, quoi ?
Alors, pour dire à quel point des fois ça coince pas, actuellement, je co-dirige un mémoire de master d'Angèle Janot qui travaille sur la façon dont les parents gèrent l'argent pour les enfants. Et elle est allée voir des enquêtés en leur demandant de rendre des tableaux comme l'enquête budget des ménages de l'INSEE trois fois dans l'année. Elle les interroge séparément et ensemble sur ces dépenses et ça fonctionne extrêmement bien. Bon, alors, après, elle a quelques familles. Donc voilà. Donc la question de dans quel milieu spécifique ça fonctionne, moi c'est vrai que j'étais surprise dans des familles Ou par ailleurs, il y a des tensions quand même assez fortes, notamment autour des héritages, est-ce que c'est égal, pas égal, ou quand on demande, est-ce que vous avez les papiers du notaire, ça sort. J'ai tendance à dire qu'il faut oser. Après, et je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper utile, c'est quelque chose aussi dont vous parliez, dont vous avez fait dans votre équipe, c'est revenir voir les enquêtés, quoi. Et effectivement, attendre le bon moment, pas forcément poser ça de but en blanc, quelque chose qui va poser problème à un moment pour en poser moins à d'autres, et y compris montrer qu'on n'est pas le fisc, on a beaucoup plus de problèmes avec les professionnels du droit que dans les monographies de famille. Parce que là, il y a vraiment des enjeux, mais alors qu'ils sont très variables. Les juges, ils n'ont rien à fiche qu'on assiste à leurs audiences, qu'on épluche leurs dossiers, vraiment rien. Les avocats, c'est assez ouvert. Les notaires, alors là, ça rigole plus du tout, quoi. Donc, voilà. J'ai évidemment pas de réponse tranchée, mais je pense qu'effectivement, en essayant de mettre un peu de continuité dans la relation d'enquête, finalement, c'est pas un sujet particulièrement problématique. Je pense que bah, y a toujours des difficultés, mais j'ai pas l'impression, à force de travailler là-dessus, de discuter avec des gens qui travaillent sur la socialisation et aussi bah, les enjeux scolaires, enfin plein de choses, que ça soit une difficulté particulière.
Bonjour, merci beaucoup pour la qualité de la table ronde. J'ai eu une question et deux remarques, une question de compréhension à Sybille Golac, il a été question de la place de l'institution scolaire qui peut apporter des dispositions économiques favorables ou défavorables. J'aimerais bien l'exemple parce que autant favorable je vois bien, défavorable je vois pas. À quoi ça correspond avec un exemple? Je me suis arrêtée sur à ce moment-là, donc je veux bien une petite explicitation. Ensuite, pour continuer la logique du jeune homme devant moi, je ne vais pas reprendre le terme travail, mais je trouve aussi que dans cette table ronde, on manquait de groupes professionnels. Je n'utilise pas le terme travail du coup. Comme espèce de socialisation, on a parlé beaucoup de socialisation primaire, mais il y a la socialisation secondaire, tertiaire, etc. Dubard a mis en avant les questions de rupture biographique, de continuité biographique dans un livre qui s'appelle « La socialisation », qui a pas été évoqué, et peut-être que ça aurait été intéressant pour comprendre comment les dispositions économiques sont justement jouent un rôle dans la reproduction de le prendre par ce prisme-là aussi. Donc, pour ouvrir, ça serait intéressant peut-être de resituer avec cette question des groupes professionnels. Une dernière remarque sur l'encastrement. Ça a été amené beaucoup, très bien par Anna, qui a amené cette table ronde sur cette question de « on prend, on saisit les choses de manière peut-être trop désencastrée ». Et en même temps, peut-être qu'on aurait pu encastrer encore davantage dans cette discussion. Je pense, on a beaucoup parlé de l'école, mais l'épargne scolaire, je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout, mais l'épargne scolaire, c'est une mission qu'on a confiée au PTT, à un moment donné, dans les années 60, pour les éduquer les enfants à la financiarisation, justement, à la gestion quotidienne, puisque l'école est un bon prisme, donc en socialisation secondaire ou en socialisation même par redondance, puisque c'est un ricochet, on éduque les enfants pour qu'eux-mêmes éduquent les parents. Et l'idée, c'était, je ne peux pas empêcher de vous citer juste un tout petit extrait d'un banquier qui, à l'époque de l'épargne scolaire, le présente de cette manière-là. L'enfant devient, au milieu des siens, un puissant agent de propagation des idées de prévoyance et d'épargne. En voyant fructifier le petit livret de l'écolier, les parents se décident souvent à faire de même. Là, on est en plein dans l'acquisition de dispositions économiques, ou alors je me trompe. Et du coup, on a peu parlé des institutions publiques. Frédéric Le Baron l'a évoqué, mais le rôle des institutions publiques, de manière beaucoup plus directe, finalement, là, cet exemple est très direct, dans la préhension de ces dispositions. Enfin, je termine, pour ne pas monopoliser la parole, en disant merci à cette table ronde qui a permis, moi j'ai beaucoup aimé l'idée de réconcilier des programmes et réconcilier des sociologies qui ne parlent pas toujours ensemble, et le fait que trois réseaux de l'AFS discutent ensemble, je trouve ça très, très... enrichissant, très dynamique, très fructueux. Merci.
Que j'ai pas du tout évoqué, alors qu'effectivement, dans mon parcours de sociologie dispositionnelle, c'est vraiment un angle très très important, au sens où j'ai travaillé sur un univers professionnel assez spécifique, qui est celui des économistes, pour commencer. Après, en élargissant aux banquiers centraux, à des groupes de hauts fonctionnaires assez spécifiques, et en allant jusqu'aux acteurs politiques relativement centraux, donc ça reste dans des groupes dominants, mais c'est des groupes professionnels très spécifiques, clairement. L'univers des économistes est très particulier et il a un rôle très structurant. Et la question des dispositions économiques se pose de manière très particulière au sein de ce groupe. Il y a même des travaux qui montrent que la formation à l'économie a des effets sur la représentation du marché, que quand on a fait de l'économie, on sait mieux comment fonctionne un marché, etc. C'est des travaux quantitatifs faits par des économistes, donc c'est souvent au niveau de l'interprétation un peu pauvre, mais c'est assez intéressant. Et tout un débat autour de ça, c'est-à-dire est-ce que l'économie n'a pas créé des sortes de monstres, enfin d'acteurs économiques particulièrement égoïstes, particulièrement individualistes, etc. C'est des vrais débats à l'intérieur de la communauté. Et donc, voilà, saisir les objets à l'échelle des groupes professionnels, évidemment, est particulièrement pertinent s'agissant des dispositions, ça c'est clair, des dispositions économiques tout spéciales. Je pense qu'il faut vraiment nuancer. Là, on a eu, je pense, pas mal d'exemples très riches, très, très différents, très intéressants de ce point de vue. Et voilà, sinon, j'ai moi-même eu un petit compte épargne quand j'étais à l'école primaire. Et je ne pense pas que ça a eu beaucoup d'effet sur mes dispositions économiques. Alors que le fait d'avoir fait de l'économie, je pense, pour le coup... certainement eu un effet assez important sur mon rapport à la banque, sur voilà, mais là je vais pas faire d'auto, j'ai pas fait d'auto-lexicométrie, je ne ferai pas d'auto-analyse.
Pardon. Je veux bien répondre sur la question de l'État, puisque j'ai un peu travaillé là-dessus avec Gouverner les conduites. En fait, si on regarde historiquement, il y a vraiment une évolution en fait de la manière dont l'État intervient dans cette fabrique des comportements économiques où on avait plutôt une période qui était celle de la morale économique, avec notamment le rôle très important de l'épargne par rapport à la consommation qui n'a de valeur que dans des circonstances très particulières. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde les outils d'intervention de l'État sur les comportements économiques, ils sont beaucoup démoralisés ou amoralisés. En fait, on a retiré cette dimension-là. Ils sont complètement infusés par les savoirs économiques. Donc c'est donc ce qu'on essaie de décrire dans l'ouvrage, avec des outils qui vont jusqu'au nudge, par exemple, et peut-être même aux neurosciences, mais j'ose pas le dire, où finalement on fait ressortir toute dimension morale de cette intervention pour la rendre complètement technique et sans projet politique, alors qu'il est énorme.
Ouais, merci pour l'évocation du bar, c'est une espèce de madeleine. Bon, mais
J'ai le souvenir de cet énorme livre. Pour expliciter là, sur l'histoire de la socialisation scolaire, j'ai pas de réponse à la question. Ça part d'un double constat, sur mon terrain et un tout petit peu étayé statistiquement, mais avec des problèmes d'effectifs. Qui est par exemple dans les familles d'indépendants. Celui qui reprend l'entreprise a des niveaux de diplôme assez inférieurs à ses frères et sœurs. Et nous, ce qu'on voit dans les familles d'indépendance, c'est des investissements dans la scolarité des enfants qui ne reprennent pas, qui garantit en fait la reprise que le repreneur ne sera pas embêté par ses frères et sœurs, en fait, d'une certaine façon, pour le dire vite. Ce constat que aujourd'hui les filles réussissent plus à l'école que et là je vais m'identifier, je veux dire on a de très bons résultats scolaires, dans la compétition au diplôme, on se débrouille très bien, et moi je suis fonctionnaire et quand je vois mes amis qui ont les parcours scolaires proches et qui sont dans le privé ou des institutions parapubliques, quand il s'agit de négocier une augmentation de salaire, elles flippent comme des malades. Donc bon, ça c'est un peu personnel comme constat, mais du coup, je me dis, qu'est-ce que l'institution scolaire valorise dans nos dispositions qui fait que, pour le coup, une fois qu'on se retrouve à vouloir accumuler du capital économique, que ce soit du point de vue du salaire, mais aussi du point de vue de la gestion du patrimoine, etc., les femmes sont là, cette fois-ci, en position dominée. Voilà, c'est cette question-là que je me posais. Sur les groupes professionnels, dans l'équipe Rupture, ce qu'on voit, c'est là on voit les groupes professionnels des avocats, des notaires. Par exemple, chez les avocats, c'est très surprenant, c'est des groupes professionnels maintenant très féminisés, surtout ceux qui travaillent en droit de la famille. Mais précisément, les dispositions professionnelles, en particulier les modes de calcul adoptés pour les impôts, ont des effets très très forts sur la façon dont ils vont faire calculer les justiciables qu'ils accompagnent et du coup dévaloriser les femmes. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc là, on voit des dispositions économiques de groupes professionnels qui ont des vrais effets sur les calculs qui sont faits à l'intérieur des familles.
Tu peux bouger, si, juste sur le... Parce que du coup, je reste sur mon exemple de la coiffure, quoi, mais ce qui était intéressant, par exemple, aux journées portes ouvertes, où les formateurs, ils recevaient les parents et les élèves de 3e qui se dirigeaient vers le CAP, quand il y avait des parents de garçons qui arrivaient, ils disaient « Mais donc, il ne doit pas s'arrêter au CAP, il pourra devenir patron, etc. » Alors que c'est vrai que je les ai peu entendus le dire quand c'était des filles. Mais par contre... Ça voulait pas, pour les filles, les formatrices disaient aussi qu'il fallait qu'elles continuent, qu'elles obtiennent le BP. Parce que maintenant, si elles voulaient être coiffeuses, même salariées, elles devaient obtenir le niveau 4. Quoi. Mais ce n'était pas le même registre d'argument. Après, du coup, moi, ce que je trouve intéressant, mais que je n'ai pas encore suffisamment analysé, donc ça a creusé, mais justement, je trouve ça assez génial, le fait que chez toutes ces filles... d'origine populaire que j'ai pu rencontrer, l'aspiration à l'indépendance soit très forte. Elles sont assez peu à être filles d'indépendants, de commerçants dans mon enquête, plutôt des filles pour les femmes de caissières, etc., avec une forte dévalorisation du travail de la mère et justement avec l'idée qu'elles, il fallait qu'elles apprennent un métier, en étant très soutenues par leur mère pour apprendre un métier. Et voilà. Et le fait de s'être complètement approprié, alors je ne sais pas si elles vont pouvoir le faire. Quand on regarde les stats, là, il y a vraiment une surreprésentation des hommes en coiffure avec patron, hein, mais donc, alors qu'ils sont que 10% en CAP, par exemple. Mais du coup, je trouve ça intéressant que quand même, elles construisent ce désir d'indépendance, que ce soit une formation féminine. Mais...
merci beaucoup pour cette table ronde. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Je voulais revenir sur cette question de la neuroscience. Vraiment un peu poussée au clash. Je suis vraiment curieuse. J'ai déjà entendu Laïr en parler. Je suis vraiment, vraiment curieuse, en fait, en quoi ou pourquoi, et peut-être pas juste une réaction de Frédéric Le Baron, mais tout le monde, mais en quoi, en fait, et pas parce que je serais contre la discussion avec d'autres disciplines qui ne seraient pas des disciplines, je sais pas, dans les sciences sociales, mais en quoi ce rapprochement avec les neurosciences, en fait, vu qu'on a justement cet outil qui est quand même assez théorique, qui est quand même justement la notion de disposition, la notion d'habitus, voilà, on a quand même des concepts qui nous permettent de penser des trucs plutôt cool, genre pourquoi on aurait besoin, en fait, d'aller vers la neuroscience. Voilà.
Je me permets de poser ma question maintenant, parce que ça peut-être, il y a peut-être un lien en fait avec la question que tu viens de poser. Moi, dans vos interventions, je n'arrive pas clairement à voir la différence entre disposition et compétence. Ça rejoint une question qu'avait posée Sylvain tout à l'heure dans l'après-midi. Et en fait, l'impression que ça me donne, c'est que si on confond disposition et compétence, pour moi, une compétence, c'est une disposition qui s'est révélée. C'est-à-dire, c'est une disposition qui a été mise à jour par une expérience. Et donc là, ça devient une compétence. Et peut-être que c'est ça, c'est ces compétences-là qu'il est possible de voir par les neurosciences, parce que j'en ai aucune connaissance, hein, mais je me dis que peut-être, comme plein de choses, comme la façon dont on ressent la douleur, une fois qu'on a expérimenté une disposition, une fois qu'on l'a répétée, elle peut peut-être s'imprimer quelque part, et dans ce cas-là, il serait peut-être possible et intéressant peut-être d'avoir recours aux neurosciences, ou ce que vous disiez tout à l'heure sur l'économétrie qui s'intéresse aux dispositions. Je me demande dans quelle mesure c'est pas plus aux compétences qu'elle s'intéresse pour pouvoir peut-être les traiter avec des algorithmes, parce que c'est possible de faire ça peut-être une fois qu'on a que les expériences se répètent, mais il me semblait, en tout cas, mais justement, je voudrais avoir votre point de vue, parce que moi, il me semblait que c'était quand même deux choses différentes. Une disposition, c'est pas une compétence, et puisque c'est pas la même chose, justement, une disposition, c'est pas encastré nécessairement, selon moi, dans un domaine. C'est pas, il y aurait pas forcément des dispositions économiques ou des dispositions politiques. On aurait une disposition à être qui, une fois révélée par dans un certain domaine, va se révéler économique, politique.
D'abord, peut-être sur la question de la définition des dispositions, c'était implicite dans ce que j'ai dit. À un moment, j'ai tenté une définition où j'ai commencé par compétence, mais j'ai dit ensuite attitude, orientation. Je pense que dans mes travaux, c'est plutôt les orientations, en réalité, et des orientations très concrètes de politique économique, par exemple de politique monétaire, par exemple des attitudes dans un contexte de crise financière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça renvoie plutôt à des questions de sensibilité politico-économique ou de sensibilité économique qu'à des questions de compétences, à proprement parler. D'ailleurs, ils sont tous très compétents, enfin, je veux dire... Dans les conseils de politique monétaire des banques centrales, il y a beaucoup de ressources informationnelles, beaucoup de ressources cognitives. Ce sont des gens qui ont un niveau de qualification très très élevé. La moitié sont docteurs en sciences éco, etc. C'est pas trop la question. Enfin, je pense qu'il y a peu de différence finalement de niveau de compétence entre eux. Il y en a un. Et notamment l'opposition académique, non académique est très très structurante. Hein, mais c'est surtout d'orientation, de sensibilité qui va vous rapprocher du secteur financier, du secteur privé. Et c'est l'évolution de ces sensibilités, moi, qui me paraît très très importante. C'est la façon dont les dispositions des acteurs publics ont été progressivement, très fortement transformées par toute une série de processus. Et donc, essayer de montrer ça dans le contexte des banques centrales, et y compris dans des contextes paradoxaux, comme l'arrivée des politiques non conventionnelles. Comment c'est possible que des gens qu'on décrivait comme très très orthodoxes, hein, dominés par une vision ordolibérale, très stricte, etc., à un moment acceptent une politique monétaire qui est orthogonale à tous les manuels d'économie standard, d'économie monétaire, qui est définie comme non conventionnelle, qui est un euphémisme pour dire très hétérodoxe en réalité. On va baisser systématiquement les taux d'intérêt, on va prêter massivement, non seulement aux banques, mais indirectement aux États, même en Europe. C'était complètement inenvisageable peu de temps avant la crise. Donc voilà, c'est plutôt les orientations. Je pense que voilà, il faut introduire aussi ça. Je pense que ça change rien quant à la question, quant au dialogue avec les neurosciences, pour revenir là-dessus. Alors oui, il y a d'abord, l'AIRS, assez tôt, dit que ce serait très important, mais avant lui, Bourdieu, d'ailleurs, lui-même, avait... eu des discussions au Collège de France avec des spécialistes de neurosciences, etc. Il y a une longue tradition, et il y a plusieurs citations de Bourdieu qui vont dans ce sens-là. Plus récemment, il y a ce débat intéressant autour de l'enseignement à la lecture. Hein, je ne vais pas ouvrir un autre... mais vous savez que voilà, il y a des convergences de fait, avant d'être des convergences théoriques ou interprétatives, entre un certain nombre de travaux, notamment faits dans la peau de Dubard, dont on a parlé, avec Jean-Pierre Terrain, avec Jérôme Doviau, etc., autour de la enseignement syllabique, enfin la méthode syllabique, et des résultats de neurosciences. C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est la convergence des résultats empiriques. Alors, on va dire, c'est pas les résultats de tous les sociologues, il y a des débats entre sociologues, il y a aussi peut-être des débats entre neuroscientifiques, j'en sais rien, mais... Et donc, de mon point de vue, c'est déjà regarder voilà, ce qu'ils ont à nous dire, leurs résultats. Enfin, c'est... Avant de se dire, voilà, on est supérieur, on a nos beaux concepts, etc., c'est de dire, mais est-ce que finalement, nos concepts ne vont pas leur être utiles aussi? Et est-ce qu'ils ne permettraient pas, peut-être, d'éclairer un certain nombre de résultats qui restent autrement, finalement, difficiles à interpréter, y compris sur la mémoire, etc. Et là, voilà, on est en train de travailler avec ça, avec Julien Larègue, notamment. Enfin, voilà, il y a plusieurs... J'ai pas mal de discussions avec Marc Joly, avec d'autres collègues, à essayer de sortir un peu de notre zone de confort disciplinaire, où on est très bien. Enfin, je veux dire, moi, je pense que notre discipline est très solide. Je n'ai pas de doute là-dessus. Voilà, j'utiliserai pas le mot cool, par contre, je pense. Mais c'est pas exactement ça. Parce que je pense que ça va, enfin, ça va pas nous servir si on donne cet argument-là à nos collègues de neurosciences. C'est pas exactement sur ce terrain-là que... Non, on peut leur dire, on est très sérieux aussi. Enfin, je pense, on l'est vraiment. Enfin, et alors, il y a plein de raisons qui font qu'on est en situation très asymétrique, très dominée dans le dialogue interdisciplinaire. Mais c'est pas une raison pour pas l'entreprendre et pour pas se sentir finalement assez en sécurité, parce qu'on est quand même assez sûr de nos résultats, on est justement assez convergent. Enfin, on n'est pas une discipline qui est si éclatée que ça et si polarisée entre des paradigmes sectaires qui s'opposeraient. Enfin, en tout cas, on essaie de dépasser ça. Quoi. Voilà, ça a pu exister. Je dis pas que ça n'a jamais été le cas, mais voilà.
Et vous dites du coup qu'eux ils gagneraient de nos concepts.
Oui, enfin, l'interaction peut être matériaux, des observations, des données, des données massives. Et que pour l'instant, on traite par le mépris. Oui, tout ça, c'est pour eux, c'est pas. Faut voir. Pourquoi pas considérer que les observations de... Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on reste les zones du cerveau activées. Enfin, ça reste assez descriptif et les mécanismes ne sont pas encore... c'est balbutiant, les neurosciences, en réalité. On n'est pas à un stade de développement si important que ça, malgré les masses budgétaires qui leur sont consacrées. Et donc...
Et il y a des débats, Frédéric.
Bien sûr, il y a des débats.
Sur cette histoire de lecture, de ce que j'en sais, les neuroscientifiques ne sont pas complètement d'accord entre les positions de Hahn et de Oudé, par exemple. Il y a un petit écart.
Alors, pour le coup, on a fait venir l'année dernière dans un séminaire qu'on a organisé avec Marc Joly et d'autres collègues, Olivier Oudé, qui est tout à fait ouvert, lui, au dialogue avec les sociologues, pour le coup, aussi. Donc, même s'il peut y avoir des divergences entre eux, ils sont en général assez, enfin quand on les sollicite pour ce que j'ai pu en voir, assez disposés à venir discuter avec nous, présenter leurs travaux, échanger avec nous. Après, bon voilà, peut-être que ça ne donnera rien. Je sais rien. Je pense qu'il faut faire un peu des paris comme ça aussi, scientifiquement. Enfin, qu'on a intérêt à, une fois, sortir de notre zone de confort pour essayer de se confronter à notre environnement. Voilà, j'ai pas parlé des algorithmes, heureusement d'ailleurs, parce que j'introduirai sans doute encore
une ligne de fracture.
Non, je pense pas. Pour le coup.
Non, mais enfin, parce que du coup, j'apparais pour celle qui est. Moi, je suis pour le pluralisme scientifique, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais les forces en présence ne sont pas complètement en position d'équilibre, d'équité, de totale balance. On a quand même une montée en régime, en fait, de ces savoirs qui prennent une place dans la décision publique qui est assez considérable. Nous-mêmes, avec 100 ans de recul sur notre science, on n'arrive pas à ça. Donc c'est un peu ça que je voudrais rappeler, c'est-à-dire que pas de problème pour discuter, pour échanger, etc. Mais à partir du moment où ces savoirs, en fait, revendiquent des positions très impérialistes, je pense qu'il est de notre devoir aussi d'avoir cette vigilance-là. Donc ma position, elle est juste celle-ci.
Désolée. Moi, il me semble qu'un des intérêts de discuter avec les neurosciences, c'est... Bon, d'abord, je pense qu'elles nous interpellent. C'est-à-dire qu'elles sont en position effectivement hyper dominante et hégémonique, et il faut préparer la riposte, quoi. En gros, c'est un peu ça, je pense. L'autre intérêt, c'est qu'elles introduisent une dimension interspéciste à l'analyse, en fait. Voilà, la sociologie est très tournée sur l'espèce humaine, c'est logique, mais en lisant des travaux d'éthologie, il y a des débats aussi hein, sur la question de le rapport aux sciences cognitives, mais avec une éthologie qui a une vision des sciences sociales hyper caricaturale, quoi. Je me dis qu'il pourrait y avoir intérêt. Si on pense par exemple à la socialisation économique, moi j'ai en tête les expériences sur les singes, où je sais pas, vous avez peut-être déjà vu, c'est des vidéos qui sont hyper expressives, quoi. On voit deux singes à qui on fait faire une tâche, et il y en a un à qui on donne une banane et l'autre, on lui donne, je ne sais plus, du concombre, quoi. Si on donne du concombre aux deux, ça va, ils sont contents. Si on donne du raisin aux deux, ils sont contents. Si, alors je crois que c'est les singes capucins, si on donne une banane à l'un et du raisin à l'autre, celui qui a du concombre pète un câble complet, en voyant que l'autre a une banane. Et chez les chimpanzés, celui qui a reçu la banane ne veut pas manger sa banane. Donc voilà, donc je trouve, enfin, c'est un des intérêts pour moi, voilà, de dialoguer avec ces sciences-là.
Moi, je suis pour le dialogue. Non, en fait, j'y connais rien, donc j'en sais rien. Mais par contre, je me dis que dans ce dialogue, du coup, je suis assez sensible à ce que dit Anna. C'est ce que j'ai lu derrière ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, une des forces de notre discipline, si on se rapporte à Weber et tout ça, c'est quand même d'être nominaliste et de revendiquer une manière de penser les choses et de croire en la puissance des concepts pour permettre d'approcher la réalité, mais pas être dans l'illusion que parce qu'on va voir les trucs en vrai, ça va être plus vrai que ce que nous on a dit. Et du coup, je pense que dans ce dialogue, potentiellement, réussir à faire passer ça, c'est important, mais du coup, il faut être aussi en position dominante pour pouvoir le faire. Enfin, donc c'est bien si vous y collez.
Ouais, non, je voulais juste mentionner que là, en fait, dans quelques jours, j'ai été sollicité avec notamment Dovio et Sylvain Brocouic et d'autres pour aller justement discuter à Lyon avec des cognitivistes. Alors, je sais pas pourquoi ils m'ont demandé à moi, c'est Stanislas Morel qui chapeaute le truc. Je suis pas sûr d'être compétent, mais enfin bon, il y a des dialogues qui se nouent, c'est bien. Voilà. Moi, je voulais évoquer une question qui a peu été évoquée, rapidement. La difficulté de faire la part entre ce qui est économique et ce qui ne l'est pas.
C'est pas faute d'y être ouais.
Et que la limite est toujours un peu floue entre ce qui relève de l'économie, du travail, de la morale, de l'honneur, etc. Et je voudrais mentionner un outil conceptuel dont on dispose, celui de champ, et en l'occurrence de champ économique, qui peut essayer de traiter la question en partie. Un acte d'achat, de vente, de placement, même anodin, ça intervient dans le champ économique. Et il y a une propriété évidente de l'intervention dans un champ, c'est qu'on n'est pas forcément dominant, et qu'alors on est dans justement des zones qui sont moins pures, plus hétérogènes, liées à d'autres champs, et plus généralement, si on considère que tout n'est pas champ, il peut être des zones qui sont liées à d'autres institutions, d'autres principes de légitimité, voilà. Ça impose de prendre en compte les institutions qui constituent le champ, et ça n'empêche absolument pas de prendre en compte les dispositifs, d'intégrer les dispositifs à l'étude du champ. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est justement à propos des pratiques économiques que Bourdieu a insisté sur le caractère crucial de ce qu'il a appelé le degré d'objectivation. Donc, ce n'est pas être anti-bourdieusien que prendre en compte les dispositifs. Voilà. Donc, bref, pour ne pas faire une séparation comme ça, a priori, selon nos propres prénotions entre l'économique et le reste, pourquoi ne pas poser cette question par l'intermédiaire théorique, donc empirique, de la participation au champ économique ? Et donc de la position plus ou moins centrale ou dominée dans ce champ, des formes spécifiques d'hétéronomie ou de dépendance qu'induit cette position. Et ça donne des pistes empiriques très concrètes pour enquêter sur les relations entre socialisation économique et professionnelle, entre sens moral et sens économique, etc. Alors je pourrais donner un petit exemple assez partiel tiré de ma thèse, pour montrer que c'est des choses qui peuvent être très éloignées, qui vont ensemble. C'était des cas de gens en situation de déclassement culturel, enfin, c'est particulier, mais j'ai vu un lien assez fort entre des gens qui venaient des fractions économiques de la bourgeoisie, plutôt stable, et des gens qui venaient des fractions plutôt culturelles de la bourgeoisie, plutôt en ascension. Et un lien entre quoi et quoi ? Entre les pratiques de dépense et de consommation et les pratiques de séduction. Voilà. Et ça fait des résultats très concrets sur les stratégies matrimoniales. Hein. Et c'est quoi ce lien ? C'est le fait de, en gros, du côté culturel en ascension, on privilégie beaucoup l'avenir lointain et que l'avenir lointain, la prudence. Alors que du côté des fractions plutôt stables, on privilégie certes l'avenir lointain, mais aussi le ici et maintenant, hein, le plaisir immédiat, la consommation pour le plaisir. Cette médiation, elle opère par l'action des institutions du champ économique qui sont différemment intériorisées, notamment par des formes de bonne volonté économique, de bonne volonté consommatrice, et ça peut avoir des conséquences importantes sur les trajectoires. Voilà. J'avais cette question-là, cette proposition, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est trop réducteur ou quoi, parce que des fois, il peut y avoir des choses simples et bêtes qui marchent bien. Voilà. Et j'avais aussi une autre question qui a un peu rien à voir, et que j'aurais posé, c'est le problème de la publication et des biais de publication. Je trouve que c'est difficile de publier sur la socialisation pour plusieurs raisons. Alors, je sais pas, c'est peut-être une expérience personnelle qui en fait est fausse parce que c'est juste moi qui sais pas écrire. C'est possible. Mais j'ai l'impression que vu que c'est des choses un peu ténues, les dispositions, et ça fait il faut prendre en compte les trajectoires, plein de trucs, plein de paramètres, on se perd dans le, enfin, c'est difficile et ça demande beaucoup de signes pour peu de résultats en fait. C'est un peu difficile. D'autre part, si on est conséquent, on devrait étudier les dispositions individuelles en lien avec les institutions qui les produisent. Or, ça implique d'étudier l'institution, le comportement individuel, la trajectoire, plein de trucs, sachant que c'est rarement un lien direct entre l'institution et l'individu, donc il y a des intermédiations souvent complexes, des institutions variées entre eux, et c'est compliqué, voilà. Et je pose cette question-là des problèmes de... Est-ce qu'il n'y a pas un biais de publication? Enfin, est-ce que le relatif vide qui nous a bibliographique qui nous a motivé à organiser ces journées, est-ce que c'est pas lié aussi à des difficultés de ce type-là? Et moi, je me rends compte, par exemple, quand on a constitué la bibliographie, on a essayé de faire une bibliographie sur la situation économique, on s'est aperçu qu'il y a pas mal de gens qui avaient traité ça dans leur thèse, mais qui n'ont rien publié dessus, et qui ont préféré publier d'autres aspects de la thèse, parce que c'est plus dur à publier. Voilà.
Action. Je ne suis pas sûr que ça simplifie vraiment, hein, l'idée de partir du champ économique. Enfin, tout à fait sûr que ça simplifie, en fait. Moi, j'ai eu plutôt une démarche assez simple, qui était de dire, voilà, il y a institué, dans le monde social, des secteurs qui sont appelés économiques. C'est le minimum. La science économique, qui s'est longtemps appelée économie politique, d'ailleurs, il y a encore des lignes de frontières autour de ça, et qui est justement un lieu où on a créé des bibliothèques d'articles et d'ouvrages pour définir l'économique, précisément. C'est un des lieux où se joue la lutte de définition de ce qu'est l'économique. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur ce domaine du savoir qui n'est pas qu'un domaine du savoir, qui est central dans l'ordre social, dans l'exercice du pouvoir, enfin, qui est... voilà. Et donc, du même coup, tu vois, champ économique, tout de suite, moi, je suis parti sur la science économique. Elle existe, elle est définie comme telle. Enfin, elle s'appelle science économique, economics en anglais. Enfin, voilà, il y a une série d'enjeux sémantiques tout à fait intéressants. Les institutions économiques, c'est déjà plus compliqué. Alors, moi, j'ai toujours, de manière assez finalement simple et assez modeste, j'ai travaillé sur les politiques économiques, qu'on appelle aussi les politiques économiques. Je dis bien ce qu'on appelle, c'est pas ce que j'ai appelé moi, c'est-à-dire la politique monétaire, la politique budgétaire, et ensuite là, gros problème de définition, c'est-à-dire les politiques structurelles aujourd'hui sont en quelque sorte arraisonnées aux politiques économiques, et au fond, la plupart des politiques publiques aujourd'hui deviennent des politiques économiques. C'est bien l'un des enjeux aujourd'hui, c'est où s'arrête la politique économique, où s'arrêtent les considérations économiques. Donc c'est plutôt sous cet angle-là que j'ai abordé la question, et du même coup, je pense que ça reboucle sur la question de la socialisation, c'est-à-dire, au fond, on ne peut pas tracer simplement de frontières, quoi. Et il ne faut pas chercher à le faire, je pense. Il faut mieux travailler. Non, mais je ne dis pas que tu cherches à le faire. Je pense que tu as bien posé le problème et que ce problème, il faut le traiter comme un problème de frontière, avec des luttes symboliques, avec des luttes de définition. Et donc dire, bon, c'est le champ économique, ça, d'une certaine manière, ça ne simplifie pas. Parce que le champ économique, qu'est-ce que c'est, justement? C'est un enjeu de lutte de définition, et notamment du côté de l'acteur public. Parce que c'est bien là que... est-ce que les hôpitaux relèvent de l'action économique en premier lieu, ou est-ce qu'ils relèvent d'autres choses? Voilà, dès qu'on pose les questions de manière concrète, on est vraiment confronté en fait, des enjeux symboliques qui sont partout dans notre société aujourd'hui. De même que, est-ce que l'école est complètement, je suis tout à fait d'accord avec Fanny de ce point de vue, c'est complètement acquis pour les formations professionnelles, pour les classes populaires, depuis très longtemps. Voilà, elles ont un rôle, une fonction, même voilà, au sens fonctionnaliste du terme, dans l'ordre économique. Mais vraiment, c'est encore un enjeu de lutte pour toute une série de... Juste d'ailleurs, j'avais une petite réaction par rapport à ce que tu disais, Sybille, sur le fait que les filles réussissaient mieux que les garçons. C'est quand même pas tout à fait vrai dans les filières scientifiques du supérieur. Il y a encore ce domaine des maths et l'économie mathématique, justement, c'est un domaine qui reste très masculin. Il y a quand même encore des bastions masculins dans l'enseignement supérieur, faut pas l'oublier. Par contre, c'est vrai pour les business schools où les filles sont devenues majoritaires, aux Sciences Po, mais probablement pas quand on regarde les orientations, beaucoup de différenciation.
Ça fait partie du
voilà, et justement, tout se joue, je pense, dans le supérieur, dans ces filières d'élite, où effectivement, se perpétue, et particulièrement dans le secteur, le cœur de la domination, qui est l'économie et la finance.
Frédéric, pour moi, la difficulté, c'est que, y compris au sein des sciences sociales, la délimitation de ce que c'est que l'économique est un problème. Du point de vue, par exemple, de la famille, c'est un des grands enjeux du féminisme matérialiste, c'est de faire reconnaître comme économique quelque chose qui ne l'était pas. On connaît ce truc de réintroduire dans le calcul du PIB la valeur du travail domestique. Enfin, voilà, tous ces enjeux-là font que... Enfin, et pour moi, d'ailleurs, c'est une des difficultés de l'approche en termes de champ, y compris d'un point de vue empirique. C'est-à-dire, quand tu dis « je vais étudier tel champ », mais qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton analyse ? C'est-à-dire que déjà, toi, tu décides un peu d'un truc sur les frontières du champ qui sont pourtant, dans la théorie du champ, un des énormes enjeux. Et je trouve que sur la question de l'économique, c'est vraiment pas gagné d'avoir une définition à la fois suffisamment objective et souple pour pas faire le jeu avant les résultats, quoi.
Moi, je pourrais dire que d'un point de vue très empirique, en fait, j'utilise une définition de l'économique qui est d'ailleurs l'une des définitions classiques, c'est-à-dire l'échange de ressources rares. Et cette définition, en fait, elle est suffisamment ouverte pour prendre en compte la question de l'économie domestique, par exemple, qui est une économie dans laquelle beaucoup de ressources sont échangées, y compris le temps, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça permet aussi d'inclure des approches maussiennes sur la gift economy. Je trouve que ça fonctionne.
La question en retour aux responsables du réseau thématique sociologie-économique. Puisque au fond, voilà, il y a un RT qui s'appelle sociologie économique. Voilà, où passe la frontière ? Qu'est-ce qu'il fait qu'on est là ?
C'est parti. Je précise juste qu'à titre personnel, donc j'espère que vous avez compris, j'étais pas pour une définition positiviste de ce qu'est l'économie ou de ce qu'il n'est pas. Et peut-être que je me suis mal exprimée là-dessus, mais parce que tu l'as suggéré, donc je suis pas non plus pour un réencastrement de l'économie, même si je pense que c'est important peut-être d'affronter ce qu'on entend par économique ou pas. Quand on dit qu'on parle des dispositions économiques ou de la socialisation économique, qu'est-ce qu'on inclut dans ce domaine-là ou pas, quoi. Et peut-être que la différence avec, je pense que la question sur les dispositions et les compétences, je suis pas sûre qu'on a répondu, elle peut aussi interroger sur quand on parle de compétences économiques, je trouve que c'est une belle manière d'interroger ce qui est légitime ou pas, qu'est-ce qu'on considère comme étant une compétence en plus de, qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant être une compétence économique ou pas. Et peut-être que quand on parle de disposition, on a un petit peu plus de souplesse pour dire que par exemple c'est un certain rapport au temps, certain rapport au travail, etc., ce qui ouvre et donne des possibilités de penser un peu plus ouvertement, avec des présupposés peut-être liés à la science économique, ce qui est économique ou ce qui ne l'est pas. Mais voilà,
c'est peut-être moins idéaliste que la notion de représentation économique, par exemple, parce qu'une série de travaux de psychologie sociale, voire de sociologie dans la tradition durkheimienne qui parle de représentation économique. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qu'une représentation économique ?
On clôt ces deux journées. Merci beaucoup à tous les quatre et à tous ceux qui sont restés et à tous ceux qui ont participé, tous ceux et toutes celles qui ont participé. Et voilà, bonne soirée.